Your plant-based milk at no extra charge. And every fifth coffee's free when you order in the OTR app. T's and C's apply. OTR. Making life easy.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
C'est difficile sur le plan donc international, mais aussi sur le plan domestique. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute.
Non, puis vous l'avez dit, effectivement, à cette époque-là, il est pas le seul à se laisser éblouir, on va dire, par Adolf Hitler et les nazis, loin de là. Sauf que dans ces premiers temps qui précèdent donc la Seconde Guerre mondiale, il va un petit peu se faire flouer une deuxième fois. En tout cas, il y a une autre menace beaucoup plus sérieuse pour l'Australie qui voit pas du tout venir. C'est le Japon. Et il y a un événement assez important dans l'histoire australienne qui va opposer d'une part des syndicats au gouvernement. Et Robert Menzies donc, en fait partie à cette époque. Et il va ressortir assez affaibli de cette escarmouche entre syndicats et gouvernement. C'est quelque chose que, d'après ce que j'ai pu voir, on appelle en Australie la controverse de Dalfram, la dispute de Dalfram. C'est quoi cette histoire de Dalfram?
Alors avant de revenir sur Dalfram, je vais reprendre les choses par le début par rapport au Japon. C'est un point essentiel ce que vous avez dit parce que contrairement aux politiciens de droite plus âgés, Menzies est beaucoup moins arc-buté sur l'idée de race. La génération d'avant, effectivement, a énormément peur du Japon. D'ailleurs, une partie de pourquoi l'Australie se fédère, c'est pour l'Australie blanche, pour la défense, et parce que justement l'empire du Japon commence déjà à prendre de l'essor. Hein. En 1902, il y a déjà un accord entre la Grande-Bretagne et le Japon, et puis le Japon est solidifié, sort solidifié de la Première Guerre mondiale, et ça inquiète beaucoup les Australiens. Menzies, lui, il est dans une droite qui, à l'époque, alors aujourd'hui, on regarde ça avec nos yeux de 2025, on dit oh là là, c'est très conservateur, mais être libre chez soi, et vous voyez, ces valeurs un peu, comment dirais-je, conservatrices, mais la liberté est importante à l'intérieur de ça. Il n'est pas tout à fait obsédé comme les autres par la présence ou la croissance du Japon, parce qu'on le sait, dans les années 30, le Japon envahit la Mandchourie, colonise, et est déjà en train de se construire un empire. Et ça, c'est vrai qu'il le voit pas. C'est-à-dire qu'il le sait, hein, il reçoit, il est informé en tant que membre du gouvernement, il n'est pas idiot, mais il vit dans cette idée que de toute façon, la Grande-Bretagne, c'est la première marine du monde, que c'est un grand empire et que tout va bien se passer. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et ça se voit, hein, d'ailleurs, quand il est Premier ministre en guerre, on va le rappeler, la géopolitique et la clairvoyance des comment dirais-je des situations de force et de faiblesse, c'est vraiment pas son truc. Et du coup, l'Australie est un peu surexposée, il comprend pas très bien ce qui se passe, il est obnubilé par Londres et il ne voit pas les changements dans l'Asie Pacifique. Et puis, on en reparlera le rôle des États-Unis un peu plus tard. Quant au Dalfram, il s'agit d'un bateau. C'est un bateau et en fait était chargé de, on appelle ça de la fonte en faisait des espèces de pieux, mais enfin des bouts de fonte très très lourds qui sont chargés dans des des cuirassés. Eh bien il faut de la fonte lourde. Des Alsaciens ou des Lorrains en 38, d'envoyer des canons en Allemagne, ça passe pas. Encore que, on l'a fait avec eux, mais enfin, bref, tout ça pour dire que les ouvriers se mettent en grève. Et le mouvement syndicaliste à l'époque est beaucoup plus structuré et beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça paralyse un peu les ports pendant un petit moment parce que les ouvriers décident de ne plus travailler. Et jusqu'à ce que le gouvernement change sa politique vis-à-vis de l'export de matériel qui pourrait être utilisé à des fins militaires par le Japon. Pour BHP, la grande entreprise de mine, en profite pour licencier 4000 mineurs en prétextant, il s'agissait vraiment d'un prétexte qu'ils n'arrivaient pas à écouler leur stock. Et donc, c'est une crise un peu sociale, politique. Et Menvis veut passer en force, veut que les ouvriers chargent le bateau. Et en anglais, on appelle ça Pig Iron. Et du coup, il a gagné le surnom de Pig Iron Bob. Bob, c'est le diminutif de Robert, qui est son prénom. Ce qu'on fait, aller fournir du métal, de la fonte, aux Japonais. Mais pourtant, il a continué. Et au bout d'un moment, effectivement, les ouvriers ont dû reprendre le travail, charger le bateau. Mais il avait été conclu avec le gouvernement que voilà, ce type d'erreur ne serait pas reproduite. Mais c'est un conflit social qui lui pète à la figure, entre guillemets, parce qu'il l'a pas vraiment vu venir, il l'a pas très bien géré, il est pas très à l'aise. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec la grande élite britannique ou avec ses ministres. C'est un bon manager en termes de il connaît les institutions, il en connaît ses rouages, il travaille bien au bureau, mais il y a des choses qu'il n'arrive pas vraiment à saisir.
Alors, donc, sa popularité après cet épisode est quand même écornée, mais il n'est pas désavoué par ses collègues. Et finalement, il va devenir Premier ministre l'année suivante, le 7 avril, suite à la mort de Joseph Lyons, qui lui meurt un petit peu subitement. Et c'est donc Robert Menzies qui fait officiellement entrer l'Australie dans la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, on imagine bien que c'est une période très compliquée sur le plan international, évidemment, mais aussi parce qu'en fait, à ce moment-là, son gouvernement ne tient plus qu'à un fil et que lui, personnellement, perd en popularité. C'est aussi quelque chose qu'on avait abordé dans l'épisode concernant John Curtin. Et puis, il se rend compte, enfin, que le Japon, c'est une menace quand même très sérieuse à cause de ses visées impérialistes sur la région. Et que le Japon pourrait très bien s'en prendre à Singapour, qui est le siège de l'armée britannique dans le Pacifique, et qui, en gros, est en charge de la sécurité de l'Australie. Et ça, il va essayer de convaincre Londres de, enfin, qu'il faut un petit peu prendre les Japonais au sérieux, en gros.
Oui, mais trop tard. Donc effectivement, le premier ministre d'avant, Joseph Lyons, Lyons, décède et du coup il faut le remplacer et qui le remplace? Eh bien, Menzies, le 7 avril 1939. À l'époque, c'est un gouvernement qui est un peu en minorité. Et ils n'ont pas assez de députés au Parlement, donc c'est un gouvernement qui est déjà en fin de règne. Ça fait plusieurs mandats que la droite est au pouvoir et donc en fait il y arrive parce que il est vu comme un homme politique plutôt droit, plutôt stable et qui est plutôt bon avec les appareils de parti à concilier. C'est un extrémiste en fait, c'est quelqu'un qui va écouter et faire travailler les gens ensemble. Effectivement, pour le Japon, il s'inquiète parce que on voit bien que la flotte impériale japonaise, les avions, enfin, c'est extrêmement, extrêmement important. Et ça, les Britanniques le savent aussi, mais ce qui fait peur aux Britanniques, c'est évidemment ce qui est beaucoup près de chez eux, c'est-à-dire Hitler, hein, avril 39, Munich, déjà, l'année précédente, il y a la crise de Danzig. D'ailleurs, à ce propos, Menvi est un peu victime de la propagande allemande que le traité de Versailles était trop dur. Non, ça c'est un mythe qui a été propagé. Mais si vous regardez les traités qui ont été signés entre les États sur les 100, 150 années avant, ou même 200, vous partez un peu plus loin, Versailles c'est plutôt soft hein, comme traité comparé à d'autres. Donc il est dans cette idée que finalement, bon. Les demandes d'Hitler, donc on est avant la guerre, peuvent être, si ce n'est légitimes, peuvent être comprises. Et lui, finalement, c'est pas tellement ce qui se passe en Allemagne qui le préoccupe que ce qui se passe au Japon. Et là, on voit bien que la force japonaise vis-à-vis de la force britannique commence à inquiéter les Australiens parce que les Australiens ont parié toute la sécurité en cas de guerre, l'Australie. Alors, enfin, si on peut faire la comparaison avec aujourd'hui, c'est que les Australiens ont toujours vu leur défense comme assurée par quelqu'un d'autre, que ce soit Londres ou maintenant Washington. Et c'est une erreur. Il n'y a pas de cas historique où un pays est allé généralement se battre, généreusement se battre pour les autres sans que ses intérêts nationaux soient en jeu. Les États-Unis ne rentrent pas dans la Première Guerre mondiale avant 17. Ils ne rentrent pas dans la Deuxième Guerre mondiale avant Pearl Harbor. Ou alors, l'Europe, elle est déjà à feu et à sang. Et les Britanniques, c'est pareil, ils vont se défendre eux-mêmes. La Passage for Britain, j'ai oublié en français, mais l'année 40, qui est très difficile pour les Britanniques, il faut qu'ils protègent leur île avant de protéger l'Empire. Et donc, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que l'Australie, elle n'a pas d'industrie de la défense, alors elle va s'en construire une rapidement, mais enfin, c'est pas du tout comparable. Elle est en retard. Elle est en retard comparée au Canada, elle est en retard comparée à l'Afrique du Sud, et elle est donc sous-équipée, et le deal donne de même pouvoir se défendre soi-même. Et donc, Menzies arrive dans une situation où non seulement il a un gouvernement dont la majorité à l'Assemblée n'est pas assurée, où il ne voit pas tant que ça la guerre venir. Et d'ailleurs, à cet égard, pour nos auditeurs qui comprennent l'anglais, je leur recommande d'écouter le discours qu'il a donné, It is my melancholy duty, quand il déclare la guerre au nom de l'Australie. En fait, il dit, bon, ben, la Grande-Bretagne est en guerre, donc nous le sommes aussi. Or, à cette époque-là, c'est pas aussi automatique que ça. L'Australie aurait pu penser différemment. Mais c'est un switch qui est intéressant, non seulement pour le ton et pour l'accent, on voit qu'il est vraiment très britannique comparé à d'autres premiers ministres australiens qui avaient un accent beaucoup plus australien, mais surtout, il est mal préparé. C'est pas un premier ministre de guerre. Il passe beaucoup de temps en Angleterre avec Winston Churchill et le War Cabinet, le cabinet de guerre britannique. Si bien qu'en fait, il est un peu aux abonnés absents en Australie, ça passe pas très bien, et il perd sa majorité, et puis en réalité, il se retrouve dans l'opposition parce que la gauche, avec l'épisode qu'on a fait sur Curtin, l'épisode, reprend la main. Et finalement, on se débrouille très bien dans une situation extrêmement compliquée où les Japonais sont à la porte de l'Australie.
Épisode, comment il a réussi à reconquérir l'opinion et le pouvoir qu'il va ensuite conserver pendant très longtemps. La suite de cette histoire, eh bien, ce sera d'ici quelques jours sur notre site SBS French. À très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you